It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024, il est 19h05 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide, en direct du studio 9 de la VOA à Washington. De l'autre côté de la vitre, Firmin Koyawida pour la mise en onde. Les États-Unis affirment soutenir du siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, mais sans droit de veto dans le cadre d'une réforme hypothétique de leur de décision des Nations Unies. Le Conseil de sécurité peut-il vraiment être réformé? Quelle place pour l'Afrique dans cette réorganisation éventuelle? Et surtout, cette réforme sans droit de veto aura-t-elle un réel impact ou ne fera-t-elle que perpétuer ce que la plupart des États membres de l'ONU qualifient d'injustice de la représentation au Conseil, largement héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale? Des éléments de réponse à venir. Trois invités pour nous accompagner jusqu'à 19h30. Docteur Sona Konaté, activiste d'origine guinéenne, médecin épidémiologiste, chef de programme au département de la santé du comté de Prince-George dans l'État américain du Maryland, d'où elle nous rejoint au téléphone. Bonsoir, docteur Konaté.
Bonsoir, Jacques Aristide. Bonsoir tout le monde.
En ligne de New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Bonsoir, Jean-Victor.
Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tout le monde.
Et via WhatsApp de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Bonsoir à Frédéric.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tout le monde.
Les États-Unis soutiennent la création de deux sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité, a déclaré récemment l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. En septembre 2022, le président Joe Biden avait déjà donné un nouvel élan pour parler sur la réforme du Conseil, soutenant à la tribune de l'Assemblée générale la revendication de sièges permanents pour l'Afrique et l'Amérique latine. Cela s'ajoute à leur soutien pour des sièges permanents réclamé par le Japon, l'Allemagne et l'Inde. Jean-Victor Nkolo, je commence par vous. Pourquoi l'Afrique, un continent d'1,4 milliard d'habitants, doit-elle attendre une réforme du Conseil de sécurité pour obtenir ses éventuels sièges permanents, alors qu'elle possède déjà des leviers économiques et stratégiques considérables?
Tout simplement parce que l'Afrique devrait être tout à fait au centre de la gestion de la communauté internationale. L'Afrique n'était pas présente en grande partie parce qu'il n'y avait que 4 pays africains indépendants au moment où le Conseil de sécurité se formait, il y a plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, l'Afrique est forte de plus de 50 États membres et l'Afrique compte bien faire entendre sa voix. Attendre une réforme, c'est ce que les Africains demandent depuis, parce que l'Afrique n'a pas pu faire usage d'un veto ou de plus de place dans le Conseil, c'est simplement parce qu'il y a d'autres États puissants dans le Conseil de sécurité qui ne veulent pas encore lâcher prise. Donc les États africains qui sont arrivés aux Nations Unies après la formation du Conseil de sécurité n'arrêtent pas de dire que le monde tel qu'il était au moment où l'ONU était formée n'est plus représentatif du monde d'aujourd'hui. Donc c'est une justice historique que l'Afrique voudrait corriger. Je reprends les termes du président sierra-léonien Julius Maada Bio, le président du groupe des 10, mais qui parle aussi au nom de l'Afrique, et qui, le 12 août dernier, fait ce plaidoyer au sein du Conseil de sécurité au moment où son pays, la Sierra Leone, en assurait la présidence.
Oui. En même temps, les États-Unis ne soutiennent pas l'extension du droit de vote pour de nouveaux membres, ni son abolition pour les membres actuels, a toutefois dit l'ambassadrice Thomas Greenfield. Aucun membre permanent ne veut abandonner son droit de veto, nous y compris, je suis honnête, et nous pensons qu'étendre ce droit de veto rendrait le Conseil plus dysfonctionnel, a-t-elle déclaré. Sona Konaté, deux sièges permanents pour l'Afrique, sans droit de veto, est-ce un réel progrès ou simplement un geste symbolique pour apaiser les critiques sur la gouvernance mondiale actuelle?
Question intéressante, Jacques Aristide. Être en fait membre du Conseil sans droit de veto équivaut un peu pour moi à être un peu figurant, pourquoi pas. Maintenant, les États-Unis sont en train de pousser pour cette participation de deux pays africains. Il faut savoir maintenant pour quelles raisons. Quels sont les enjeux, en fait? Est-ce une question d'héritage pour l'actuel président, pour pouvoir dire qu'il a contribué à cette entrée de ces deux pays africains? Est-ce vraiment cette volonté de pallier à ce grand écart géopolitique dont les enjeux ont vraiment changé le monde, les priorités ont changé, comme l'a dit mon prédécesseur, au début de la création du Conseil, il n'y avait que peu de pays africains. Et là, nous avons beaucoup plus de pays africains, avec 17% de la population mondiale qui vient de l'Afrique. Et donc, quels sont les enjeux? Les enjeux sont-ils vraiment pour que l'Afrique puisse avoir une voix? Sans droit de veto, je ne vois pas comment l'Afrique pourra vraiment faire prévaloir ses vues. La raison est pour qu'il y ait une plus grande balance économique, nous ne savons pas. Nous avons deux mastodontes économiques en Afrique qui sont l'Afrique du Sud et en ce moment l'Égypte. Pourront-ils avoir un certain poids? Nous avons aussi la DRC qui est là, qui est au centre de beaucoup de conflits. Nous avons le Soudan. Donc qui, en fait, va représenter l'Afrique au conseil dans ce conseil-là?
Absolument. Et c'est un aspect que nous avons abordé. Alors, puisque vous avez évoqué la RDC, Frédéric Amani, les États-Unis affirment donc soutenir l'Afrique. Mais comme le suggèrent certains observateurs, est-ce là une manœuvre pour contrer l'influence croissante de la Chine sur le continent africain? Où se situent réellement les intérêts de Washington, selon vous?
Effectivement, vous savez, depuis un temps, l'Afrique était un précaré des puissances traditionnelles, dont notamment les États-Unis. Mais depuis un temps, la Chine, la Russie, bref, les pays émergents semblent gagner du terrain et contrer, n'est-ce pas, l'influence des États-Unis, de l'Europe ou de la France. Et je crois que c'est stratégique pour les États-Unis, parce que l'Afrique, en tant que continent qui présente, si je peux emprunter l'expression, un soft power, et l'Afrique est convoitée par la Chine, la Russie, mais aussi convoitée par les États-Unis. Et pour garder l'équilibre et attirer l'Afrique vers les États-Unis, eh bien, le continent américain cherche à apporter le soutien, qui malheureusement, ce soutien semble être pas total, en voulant que l'Afrique obtienne un siège ou des sièges permanents mais sans droit de veto. Je crois que c'est stratégique, mais les intérêts américains sont au niveau où l'Afrique détient des ressources stratégiques qui sont, n'est-ce pas, recherchées aujourd'hui dans la nouvelle technologie et dans le commerce international. Mais je crois que, de ce point de vue-là, l'Afrique et les États-Unis sont en train de jouer sa partition pour montrer qu'elle est aux côtés de l'Afrique. Mais je crois que cette stratégie devrait être bien étudiée et par l'Afrique et par les États-Unis pour apporter le soutien dont l'Afrique a besoin pour le siège permanent avec un droit de veto au Conseil de sécurité.
Et pour rappel, le Conseil de sécurité compte 15 membres, 5 permanents, États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie, qui détiennent donc un droit de veto, et 10 élus pour 2 ans qui représentent les différentes régions géographiques, dont 3 pour l'Afrique. Le problème est que ces sièges élus ne permettent pas aux pays africains d'apporter le bénéfice de leurs connaissances et de leur voix au travail du Conseil. Encore dit Linda Thomas Greenfield. Jean-Victor, brièvement, si l'Afrique obtient des sièges permanents au Conseil de sécurité, comment choisir les pays représentatifs? Ne risque-t-on pas de créer une rivalité intra-africaine?
C'est une question très intéressante, Jack Aristide. La question, en réalité, première qu'il faudrait poser, c'est d'abord le droit de l'Afrique à avoir des États membres et peut-être même des États membres permanents avec droit de veto. Maintenant, quant à la question de l'unité de l'Afrique, de la modalité du choix des pays qui représenteraient éventuellement l'Afrique, c'est une chose qu'il faut laisser aux Africains. En d'autres termes, la désunion ou le manque de consensus présumé les Africains, ou alors la difficulté à entrevoir comment est-ce que l'Afrique sera représentée ou comment est-ce que les choix seront opérés, ça c'est une question subséquente, je dirais même subsidiaire. Premièrement, il faut corriger l'erreur historique. Il faut d'abord admettre, il faut que les pays qui ont actuellement, les cinq pays qui ont le droit de veto, l'âge du lest, acceptent de comprendre et acceptent aussi d'aller de l'avant parce que le Conseil de sécurité ne représente plus du tout le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et l'Afrique, avec son dividende démocratique, mais aussi étant considéré véritablement comme le continent du futur, voudrait maintenant prendre sa place là où sa place est, c'est-à-dire autour de la table et non pas dans les corridors.
Oui. Soda Konaté, rapidement, en l'absence de droit de veto, les futurs membres africains ne risquent-ils pas d'être relégués à des rôles secondaires dans les grandes décisions mondiales ?
Absolument, Jacques, c'est exactement ce que je voulais exprimer ici. Sans droit de veto, je ne vois pas vraiment l'impact que les nations vont, les nations africaines, si elles sont ajoutées à ce conseil, vont apporter. Je vois juste, pour être réaliste, je vois juste une figuration, une participation plutôt symbolique des pays africains. Et je crois que les grandes nations comme les États-Unis ont réalisé que accorder ces deux places à l'Afrique peuvent exprimer comme une certaine volonté d'intégrer le monde, d'ouvrir l'Afrique, mais en réalité, je crois vraiment que ce ne sera pas du tout, ça ne va pas faire un impact du tout au rôle du Conseil de sécurité ou bien au pouvoir qu'ils ont. Nous avons déjà les cinq membres qui sont tellement puissants. Au sein déjà des cinq membres permanents, nous avons tout un cosmos géopolitique qui reflète l'actualité de ce monde-là. Et donc, ajouter deux membres de l'Afrique qui n'ont vraiment pas de droit de veto, n'ont pas de poids. Oui. Poids économique, poids politique, bien poids décisionnel. Oui. Voilà, je crois vraiment pas que ça n'a pas, pour être réaliste, pour être dans la réalité des choses.
Frédéric Amani, le Conseil de sécurité de l'ONU est souvent paralysé justement par le droit de veto des cinq membres permanents actuels. Pourquoi étendre ce droit à d'autres nations, y compris africaines, ne serait-il pas contre-productif?
Effectivement, parce que le droit de veto devient comme une charte gardée pour les membres permanents et ils ne veulent pas l'étendre à d'autres. Et comme vous l'avez dit, ce sera contre-productif. Voilà pourquoi, pour certains, les États-Unis à l'occurrence, montrent qu'ils sont favorables aux réformes ou en donnant des sièges permanents à l'Afrique, mais sans droit de veto, parce que le droit de veto, c'est ce qui fait du Conseil de sécurité ou c'est ce qui fait des membres permanents les grandes puissances, si je peux le dire ainsi. Et l'étendre à d'autres, c'est fragiliser et les membres permanents et fragiliser même le Conseil de sécurité. Voilà pourquoi je pense qu'il y a tout un débat autour de ce Conseil de sécurité avec les droits de veto. Mais nous pensons qu'il revient d'un côté à l'Afrique de se battre au travers, n'est-ce pas, ses capacités à montrer qu'elle est prête à participer à la gouvernance mondiale, parce que le Conseil de sécurité, c'est un organe politique et stratégique de l'ONU qui participe à la gouvernance mondiale. Et l'Afrique, par rapport à tout ce qu'elle a comme potentialité, elle veut aussi participer à ça, mais elle doit faire preuve des capacités, de respect des valeurs pour participer ou pour avoir droit au chapitre. Oui.
L'AFP rapporte que des manifestants se sont élevés mercredi dernier à Kinshasa contre la candidature de la RDC, votre pays, Frédéric Amani, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais également au Conseil des droits de sécurité des Nations Unies, comme je disais, fustigeant répression et arrestation arbitraire dans le pays. Brièvement, Frédéric Amani, le gouvernement congolais a-t-il réagi aux accusations faites par ses protestataires et par ses opposants?
Bien, à ce que je sache, jusque-là, il n'y a pas encore de réaction du gouvernement par rapport à ces manifestations, parce que je voulais aussi les rappeler. D'un côté, il y a une frange d'opinion qui estime que la RDC ne doit pas être membre, surtout du Conseil des droits de l'homme par rapport à ce que vous avez dit. La répression d'opposition, le nivellement de la liberté d'opinion, mais il y a une autre opinion qui pense que ce serait une occasion pour mettre la RDC devant, n'est-ce pas, à ses responsabilités en intégrant ce conseil, et pour l'interpeller à respecter davantage la liberté d'opinion, les droits de l'homme et consorts.
Oui.
Donc, je crois qu'il y a des opinions là-dessus, mais il n'y a pas encore de réaction du gouvernement congolais. Je crois qu'elle va venir dans les jours à venir. Et aussi pour le Conseil de sécurité, c'est en quelque sorte être au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique un pays qui participe, comme je l'ai dit, à la gouvernance mondiale comme un organe stratégique, le Conseil de sécurité. Attendons voir, les jours à venir vont nous donner plus de précisions par rapport à toutes les tractations congolaises, mais aussi par rapport à ces manifestations qui voudraient que la RDC ne soit pas élue, malheureusement.
Oui, attendons voir. Vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous, une émission que vous propose VOA Afrique chaque vendredi à partir de 19h05 en temps universel. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes nos radios partenaires et à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs branchés sur nos bandes FM, y compris à Djibouti sur VOA Djibouti Arta, fréquence 100.8. Et VOA Djibouti City, fréquence 102.0. Un grand merci à vous toutes et à vous tous.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez effectivement l'Amérique et vous, un programme de VOA Afrique. Mille fois merci de votre fidélité. Jacques Aristide avec vous ce soir. Il est question de la proposition d'attribuer à l'Afrique deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Un sujet que certains dirigeants ont abordé durant cette dernière semaine de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, grand messe annuelle réunissant les chefs d'État et de gouvernement de la planète à New York. Et nous retrouvons nos invités, Dr Sena Konaté, activiste d'origine guinéenne, actuellement en ligne de la ville américaine de Chavely dans le Maryland. Depuis New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, et en direct de la RDC, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Alors que le Conseil est largement paralysé, les Africains qui réclament depuis longtemps deux membres permanents veulent que ses futurs membres soient sur un pied d'égalité. L'Afrique veut l'abolition du veto, mais si les États membres veulent conserver le veto, il doit être étendu aux nouveaux membres permanents. C'est une question de justice, a déclaré en août dernier le président sierra-léonais Julius Maada Bio, s'exprimant donc devant le Conseil de sécurité au nom de l'Afrique. Et d'ailleurs, Jean-Victor nous en parlait tout à l'heure. Justement, Jean-Victor, des analystes considèrent que le Conseil de sécurité, dans sa forme actuelle, est obsolète. L'Afrique doit-elle pousser pour une refonte complète de cet organisme clé des Nations Unies plutôt que pour une simple inclusion? Doit-elle notamment insister sur l'abolition pure et simple du droit de veto pour tous?
La nécessité de la réforme n'est pas seulement partagée par l'Afrique. Même les pays qui ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité sont tout à fait d'accord qu'il faut réformer le Conseil. Simplement, tout le monde n'a pas la même perspective, la même approche, la même vision pour les réformes qu'il faut y apporter. La France, par exemple, pays qui a le droit de veto, a une vision quelque peu différente des États occidentaux, parce que le président Macron, comme il l'a déclaré ici à New York dans le cadre du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, la France estime qu'il faudrait que le droit de veto s'applique dans des cas extrêmes de violence ou de situation véritablement compliquée où là le veto jouerait, au lieu d'avoir le veto pour défendre les intérêts de tel ou tel autre État membre. Les États-Unis, comme on l'a dit, voudraient des États membres africains supplémentaires, mais sans droit de veto. La Chine, quant à elle, est encore très discrète sur cette véritable question. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont un peu plus périphériques, comme le Japon ou le Brésil, qui ont une vision tout à fait différente, mais tout cela demande une grande coordination. Ce qu'il faut dire, cependant, c'est que effectivement, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, le point de veto est absolument devenu essentiel. Sans lui, ça pourrait ressembler à de la
Oui, Sena Konaté, les critiques soulignent que les Nations Unies, le temps file, je m'excuse, alors désolé de vous interrompre Jean-Victor. Alors Sena Konaté, les critiques soulignent que les Nations Unies ne sont plus adaptées aux défis contemporains, on en parlait tout à l'heure dans la première partie du programme. L'Afrique ne gagnerait-elle pas plus à investir dans des alliances régionales solides comme l'Union africaine, plutôt que de chercher à s'intégrer dans un système mondial perçu comme dysfonctionnel? En deux mots, si vous pouvez.
Absolument, Jacques Aristide. Je crois que, en fait, l'Afrique commence à se rendre compte que s'intégrer et commencer à développer, investir dans sa propre région, dans sa propre sous-région, est peut-être la priorité à laquelle nos États devraient s'adapter en ce moment-là. La géopolitique internationale ne s'adapte plus trop à nos réalités, et ça, nous l'avons compris. Regardez un peu les membres permanents du Conseil des Nations Unies. Nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, nous avons la Russie, nous avons la France, nous avons la Grande-Bretagne. C'est bien beau. Mais est-ce que ces pays-là vraiment défendent les intérêts de nos pays africains en ce moment-là? Nous avons des guerres qui se passent en Afrique en ce moment-là, qui sont reléguées au niveau, qui sont reléguées à un niveau secondaire, tertiaire. Est-ce que c'est la preuve de ces pays-là? Et donc, nous, Africains, avec tout le potentiel que nous avons, potentiel humain, potentiel économique, potentiel, comment dirais-je, nous devons vraiment nous lever et commencer à investir au niveau de nos instances sous-régionales, régionales, les réformer et les adapter aux priorités actuelles, outre aux politiques obsolètes.
Frédéric Amani, comment garantir que ces sièges permanents africains, s'ils sont créés, reflèteront les intérêts de l'ensemble du continent et non ceux des grandes puissances régionales comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Égypte? Alors, je ne sais pas.
Voilà pourquoi je pense que s'il arrivait que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité, il faudrait qu'il y ait un débat, un dialogue franc au niveau africain, bien que cela soit difficile, parce que les divisions régionales au niveau africain ont toujours fragilisé la position commune au niveau international, malheureusement. Nous pensons qu'en obtenant ces sièges permanents avec droit de veto, il faut qu'il y ait un débat franc au niveau africain, et je pense que le pays qui peut l'emporter, c'est l'Afrique du Sud ou à la limite l'Égypte, par rapport à tout ce que ces pays ont comme potentialité, comme position du point de vue militaire, politique et économique. Mais nous pensons que l'unité africaine face aux intérêts africains doit aussi être de mise pour souhaiter parler un seul langage lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un positionnement africain dans les conseils de sécurité, en l'occurrence.
Oui, et cette réforme nécessiterait l'adoption puis la ratification par deux tiers des 193 États membres de l'ONU, réforme du Conseil qui requiert surtout l'accord des cinq membres permanents actuels, dont certains ont des relations tendues avec l'Afrique. Jean-Victor, il nous reste très peu de temps. Les réformes du Conseil de sécurité sont discutées depuis des décennies sans résultat concret. Est-il réaliste de penser qu'un véritable changement puisse se produire dans un avenir proche? Le soutien des États-Unis ne risque-t-il pas d'être un coup d'épée dans l'eau si des pays comme la Russie ou la Chine bloquent la réforme?
Il y a peut-être les États-Unis, la Russie ou la Chine. Il y a un léger espoir dans l'Assemblée générale des Nations Unies, car de plus en plus de questions qui ne trouvent pas de solution au sein du Conseil de sécurité, comme la Palestine, comme Gaza, comme l'Ukraine et la Russie, sont maintenant confiés à l'Assemblée générale. Et il faut espérer que le poids de l'Assemblée générale va peser de plus en plus et qu'enfin, il y aura un plus large consensus pour la réforme du Conseil de sécurité. Donc, espoir dans l'Assemblée générale, car le monde est en train de changer.
Voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 27 septembre 2024. Merci à nos invités, Sena Konaté, Jean-Victor Nkolo et Frédéric Amani. Firmin Koyawida a assuré la mise en onde. Nouveau rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée, un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Take care, merci.